Radio Esperanza.
Toutes et tous, nous sommes ici en direct du Festival Esperanza sur Radio Esperanza. Cher public, vous nous aviez manqué. Donc, la Radio Esperanza est la radio éphémère qui se forme pour le Festival Esperanza et qui est composée d'un collectif de radios associatives belges francophones. Vous pouvez nous écouter dans la région de Floreffe sur le 106.2. Ainsi que sur Radio Cigaloun à Saint-Tropez. Big up à Flo, notre cher ancien radiateur. Dans le cadre de Radio Esperanza, nous interviewons des artistes du festival, des artistes d'art de rue, les festivaliers, festivalières, toutes les personnes présentes qui ont monté le festival, qui participent au festival. Ainsi que beaucoup d'assos du village associatif dans lequel nous sommes présents actuellement. J'aimerais vous rappeler que le slogan du festival de cette année est « Résiste, milite, existe » et que la campagne consiste à parler du fascisme, de la montée des extrêmes droites, mais également des alternatives. Nous sommes dans ce cadre, en présence des Amis de la Terre, représentés par François, qui est à nos côtés, et Abélie, avec Anaïs et Fredux. Donc, on commence les présentations peut-être. François, est-ce que tu veux nous parler des Amis de la Terre ?
Voilà, je représente les Amis de la Terre, une association qui fait de l'éducation permanente et de l'éducation relative à l'environnement. Dont le grand but en fait c'est de prendre soin du vivant et avec deux grands thèmes qui sont la décroissance pour la partie collective et la simplicité volontaire pour la partie plutôt individuelle.
Merci. Est-ce que Abélie, vous souhaitez présenter votre collectif? Ah. Redux, je vois que tu as un casque.
et un micro, c'est surtout ça le plus important. Oui, Abélie, donc créé en 2013 pour pouvoir recevoir des subsides et organiser les rencontres mondiales du logiciel libre à Bruxelles, une grande première. Et c'est une assoce qui donc fait dans la promotion et la défense du logiciel libre, tous azimuts. Parallèlement à des choses plus techniques, qui est donc vraiment installer du logiciel libre, des OS libres dans les ordinateurs des gens. Voilà, on fait de la sensibilisation ici sur Esperanza pour tenter de sauver 240 millions d'ordinateurs. On se demandait encore avec François tout à l'heure si c'était pas 350 millions d'ordinateurs. Voilà, donc il y a un petit peu ce challenge écologique, économique, fasciste.
Voilà. Tout à fait. Merci à vous du coup d'être là avec nous. On avait envie pour cette émission d'aborder la thématique du numérique et en se croisant au Village des Possibles tout à l'heure, du coup on discutait avec les Amis de la Terre aussi de la capacité des associations à prêter attention au numérique et à la convergence des luttes et qu'en fait nous sommes tous concernés par le numérique. On a eu pas mal de conversations intéressantes tout à l'heure que nous avions envie d'aborder dans cette émission.
Vous nous aviez parlé notamment de décroissance collective. Est-ce que vous pourriez nous toucher deux mots pour un peu expliquer en quoi cela consiste ?
La décroissance, c'est l'ensemble des mesures qu'on peut prendre pour revenir à un niveau de consommation de notre consommation des ressources de la planète qui soit de nouveau raisonnable. parce que je pense qu'un citoyen occidental moyen, bah, si tout le monde consommait comme lui tout au long de l'année, on aurait besoin de 4 planètes. Et donc, on peut pas se permettre de vivre comme on vit maintenant. Et donc, c'est de là que vient l'idée de décroissance, en fait.
D'accord, merci. Vous nous avez parlé d'environnement, ici et durant notre précédent échange, mais également d'obsolescence programmée. Quels sont les impacts concrets de l'obsolescence programmée sur les ressources naturelles que notre planète nous offre?
Nous offre, voir tout ce qu'on lui vole d'abord. Oui, mais c'est le fait que, pour des raisons économiques, la plupart des grosses boîtes de logiciels ou de matériel, je vais le voir de manière un peu économico-fasciste, sont cotées en bourse. Donc, elles n'ont qu'un objectif, c'est faire du pognon et c'est de pouvoir reverser des dividendes à tous leurs et à toutes leurs coopératrices. Donc, comment ils appellent ça encore ces gens-là?
Actionnaire,
voilà. Et donc le problème de l'obsolescence programmée est une astuce du capitalisme aveugle de faire rentrer des sous-sous dans leur popoche. Et bien sûr, si on est alter-capitaliste, on peut plus dire anti-capitaliste, hein. Enfin, on peut plus dire anti-mondialiste, et ça, donc on était comme on est alter-mondialiste, on est alter-capitaliste. Donc oui, le monde du logiciel libre a vraiment tout autre chose, vu qu'il n'est pas coté en bourse, vu que c'est gratuit. Légalement gratuit et gratuitement légal. Et donc, avec cette obédience-là, le monde du logiciel libre permet de faire rester, continuer, durer plein de vieilles machines, bureaux, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs de poche. Je verrai ça comme ça dans un premier temps. Oui.
Ok. Dans les grandes entreprises que vous avez évoquées, qui sont cotées en bourse, on compte notamment les géants GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et
Microsoft.
Quel rôle est-ce qu'ils jouent concrètement, par exemple, dans le choix des zones qu'ils exploitent pour récupérer des minerais, par exemple les batteries pour les portables, les téléphones, etc. nécessitent des minerais qui sont exploités. Quelles sont les régions qu'ils exploitent?
Oh, bah, disons, eux n'exploitent pas directement. Il faut voir aussi à ce moment-là l'énorme chaîne intermédiaire pour que effectivement on arrive à avoir des machines ici. Les GAFAM n'ont pas directement de lien sur toute la filière. Mais bon, voilà, on parle effectivement de l'Afrique, les terres rares que la Chine essaye de rafler. Et voilà, mais comme on a un petit fond de musique dans les oreilles, on disait que c'est assez swingant. Hein. Donc oui, l'Afrique, tu avais une carte géographique plus précise, je crois.
Oui, on peut parler de beaucoup de choses, mais en fait, voilà, à des degrés divers, certains de ces GAFAM nous vendent des produits et donc auraient un lien potentiellement assez direct avec l'endroit d'où on choisit de prendre les minerais qui sont nécessaires à la fabrication des smartphones et de nos ordinateurs. Mais pour moi, il y a quand même un gros rôle d'incitation, en fait. Parce que Microsoft, en produisant des operating systems, donc Windows, hein, pour appeler ça, voilà, un système d'exploitation en français, voilà, Windows 10 arrive le 14 octobre à échéance. Il y a donc 240 ou 350 millions d'ordinateurs qui sont jugés ne pas être capables de faire tourner Windows 11 et qui sont censés aller à la poubelle. Du coup, voilà, c'est pas un lien direct, mais il y a une incitation, et voilà, ça c'est un exemple, mais on peut en sortir comme ça tant qu'on veut, pratiquement.
Est-ce que vous pourriez expliquer pour des gens comme moi qui s'y connaissent peu, ce que ça veut dire que l'ordinateur ne sera pas capable d'utiliser Windows 11? Ça veut dire que mon ordi va planter le jour de la mise à jour, ou comment ça va être super lent? Qu'est-ce qui va se passer pour mon ordinateur qui est assez vieux?
Très concrètement, en fait, si on garde Windows 10, Microsoft ne va plus fournir les mises à jour de sécurité. Et donc, même si on a un antivirus, on pourrait très bien se retrouver sur Internet avec un ordinateur qui va laisser passer un hacker parce qu'il y a une faille connue du système d'exploitation qui va être exploitée. Et donc on s'en rendra pas compte, mais son ordinateur va devenir peut-être un zombie qui va un jour faire une attaque sur un site ou quelque chose comme ça, sans qu'on s'en rende nécessairement compte. Hein.
Envoyer 10 000 mails par minute, quoi, hein, de devenir une machine d'envoi de spam, comme notre petite machine à bulles sur le stand d'Abelie.
Ok, et ça on s'en rend compte quand notre ordinateur fait ça?
A priori non.
Ok. Donc on doit être vigilant. Et quelles sont les alternatives possibles? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, alors si on reprend, puisqu'on a évoqué un cas concret, on peut continuer sur ce cas concret qui est l'ordinateur qui ne pourra pas passer de Windows 10 à Windows 11. Là, clairement, il y a moyen de continuer à l'utiliser si on peut utiliser Linux, par exemple. Typiquement, avec Linux, un utilisateur Linux, il va utiliser un PC pendant 15, voire 20 ans, peut-être même plus si c'est une tour qu'on peut de temps en temps aménager avec un petit composant matériel en plus. Voilà, ce sont des durées de vie qui sont d'un ordre 3, 4 fois supérieur à celui auquel on s'attend en général pour un utilisateur Windows.
Hardware ou la durée du software ou les deux même.
Voilà, c'est l'espace de temps entre l'achat et la mise au rebut en fait.
C'est ça. Donc le système Linux, on va l'appeler le système open source, va vraiment intégrer tout ce qui est hardware pour le faire fonctionner de manière optimale sans fioritures autres.
Exactement.
Et, voilà. Et donc il va préserver un peu la bête. C'est bien ça ? Enfin, je sais pas.
Ce sont des systèmes qui sont moins exigeants en ressources, donc qui permettent d'utiliser un matériel plus ancien sans vraiment d'avoir de problème, en fait.
Ok. Mais pour l'utilisateur moyen, un peu ben, exactement comme moi, bien souvent, on fait face à des personnes qui sont un peu réticentes à installer Linux. Parce que ben, voilà, quand on prononce le mot Linux, on voit déjà directement les écrans avec les lignes de code qu'on ne connaît pas forcément. On se dit, on va pas s'en sortir. Est-ce que je vais pouvoir intégrer mon imprimante facilement dans Linux? Voilà, je vous retourne un peu cette remarque qu'on rencontre souvent. Vous en rencontrez souvent des personnes comme celle-là?
Oui, oui. Mais je peux vous en parler parce que je faisais partie des personnes qui étaient... Donc j'ai commencé avec un Mac et très rapidement... Je me suis très vite lassée du système parce qu'il fallait acheter un iPhone, fallait acheter un iCeci, un iCela. Et donc je suis passée sur Windows et Windows aussi. Après 2-3 ans, j'ai vite fait le tour et je suis passée sur Linux. Et comme toi, vous, beaucoup de personnes, j'avais aussi les images, les a priori. Et en fait, je me suis aperçue que ça dépendait des distributions de Linux, mais il y en a certaines qui sont vraiment très simples, très faciles à prendre en main et qui ressemblent très fort en fait à un environnement windowsien et qui ne sont pas du tout compliqués à utiliser. Bien au contraire, je trouve que c'est même encore plus simple et intuitif que Windows. Et pour tout ce qui est branchement des imprimantes ou d'autres, je veux dire, par exemple, j'ai une tablette remarquable. Ben en fait, c'est très facile d'installer justement le petit software qui permet de le faire fonctionner. Donc ici, en l'occurrence, c'était pour mon exemple Wine, et ça fonctionne très très bien en fait. Donc moi, je suis agréablement surprise par rapport au Linux Install Party où justement on peut choisir les distributions. Et alors j'ai essayé plusieurs distributions Linux aussi. Manjaro, Ubuntu et Fedora. Et c'est vrai que, comme dit François, ça prend très peu de ressources pour votre ordinateur. Et j'ai pu continuer à utiliser un vieux Dell qui était sur Windows 7 et qui était périmé depuis 3 ans. Et donc, je me suis exposée à tous ces risques, justement, sur le net avec les failles de sécurité. Heureusement, j'ai pas eu de problème, ou pas que je sache, en tout cas. Et quand je l'ai fait passer sur Linux, tout d'un coup, il fonctionnait beaucoup mieux, il était beaucoup plus rapide. Donc j'ai que des avantages par rapport à ça.
Oui. Donc, si on résume, on est à l'heure actuelle face à une maturité des distributions qui sont vraiment devenues user-friendly et facilement adaptables.
Ça dépend lesquels, parce qu'il y a toujours des distributions qui sont pour les geeks de service, mais en tout cas, en ce qui me concerne, Manjaro et Mix, par exemple, ou Mint, c'est accessible. Maintenant, Fedora, moi, c'était un petit peu compliqué en ce qui me concerne, donc je suis repassée à quelque chose de plus simple, mais c'est tout à fait possible si on a envie de s'amuser ou de chipoter de grandir avec ça. Et en fait, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est chouette.
Et tu as prononcé aussi un mot qui est un peu tilté dans ma tête. Tu as parlé de Linux Party.
Oui, les Linux Install Party.
Voilà. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est ?
Oui. Alors, il y en a, je pense, dans plusieurs villes de Bruxelles, villes de Belgique, mais je peux vous parler de celles de Bruxelles. Donc, il y en a une au FIJ à Saint-Gilles. Et alors, le troisième dimanche du mois, il y en a une à Laeken, au Caldarium. Et il y a aussi une à Berkem-Sainte-Agathe. Vous venez avec votre ordinateur qui ne fonctionne plus sur Windows ou avec lequel vous avez des difficultés. Et là, y a des experts qui vont vous installer une distribution qui vous colle parfaitement.
Et des expertes.
Aussi.
Donc c'est une sorte de porte d'entrée pour les gens qui voudraient se lancer dans une alternative comme Linux et avoir un peu d'apprentissage sur comment ça fonctionne, etc.
Oui, en tout cas, ça permet de passer le premier pas qui est « mais je ne sais pas comment faire, je n'ai pas confiance en moi, j'ai plein d'a priori ». Et là, ce sont des personnes qui ont l'habitude, qui peuvent vous installer justement le logiciel. Et après, vous pouvez faire vos premiers pas. Et dès que vous avez des questions, des blocages, vous pouvez revenir. Et c'est entièrement gratuit. Et vous pouvez justement grandir, évoluer, apprendre.
C'est écrit ici, hein, « Abélie vous prend en main ». Voilà. Donc, on est dans cette formule-là, effectivement, de ne pas laisser les gens seuls face à l'adversité. Ou alors, le fait de se rendre compte que ce sont beaucoup aussi des analphabètes. Il y a des gens qui ont vraiment décroché du monde numérique. Ils savent ce qu'on sait faire avec une machine de poche. Mais fondamentalement, il y a une perte de connaissances. Et je crois que c'est aussi intéressant de parler de GNU Linux, complètement pour avoir la notion du libre dedans et de voir que la plus-value n'est pas que technique de récupérer une vieille machine, n'est pas que de pouvoir faire la bureautique aisée, c'est le fait aussi de mettre un pied dans le monde du logiciel libre plus que open source. Et à ce moment-là, d'envoyer bouler radicalement tout le fascisme numérique de nos ordi. Et donc de... à l'image entre guillemets de son alimentation, soit effectivement on met un petit peu plus cher et on va chercher des carottes bio, on va s'alimenter avec des produits sains qui font du bon à l'organisme, plutôt que d'aller acheter des carottes remplies de Roundup et de glyphosate et de se rendre compte qu'après 3 carottes on a des boutons verts qui poussent sur le nez, quoi. Voilà. Et donc je crois que si on peut prendre le soin de soi par son alimentation, qui est la base quand même pour rester en vie, eh bien on peut prendre le même soin avec tout l'univers et la philosophie et les outils et les logiciels libres amènent ce même diapason.
Parce qu'on parle beaucoup ici d'alternatives numériques avec des logiciels, etc. Mais ce que vous évoquez ici avec les logiciels libres, ce serait aussi une alternative intéressante d'un point de vue écologique, parce que des moteurs de recherche comme Google par exemple, qui ont des data centers dans l'eau, un peu partout dans le monde, consomment énormément d'énergie et consomment aussi beaucoup de matériaux pour être construits. Donc l'alternative que vous proposez par exemple avec Linux serait aussi une bonne voie à suivre pour une amélioration, l'utilisation numérique plus verte, plus écolo.
On pourrait le voir comme ça, oui, effectivement.
Moi, je voulais, avant qu'on change complètement de sujet, je voulais quand même insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'installations Linux qui se font en Ripper Café. Parce qu'il y a beaucoup plus de Ripper Café. Alors, tous ne font pas des installations Linux, mais si on va sur repairtogether.be et qu'on regarde la carte des Ripper Café, on peut les trouver près de chez soi et voir lequel fait de l'informatique et poser la question, est-ce qu'on peut faire une installation Linux ? En termes de nombre, il y en a beaucoup plus que des groupes d'utilisateurs Linux. Et je pensais que ça valait la peine de le signaler quand même, parce que les Ripper Café, il y en a beaucoup. Oui, voilà.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs. Personne n'a du pouvoir sur personne. Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs.
Ok, là tu peux parler.
Ouais, avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonjour, nous venons donc d'entendre le générique de La Virgule dont Fredix va nous parler, mais également une chanson de Benny qui se produira dimanche à 14h45 côté jardin.
Mais donc oui, cette virgule, trois petits points, c'est en fait le générique de Source, comme le code Source, quand il est ouvert, libre et accessible, donc une émission de Radio Campus Bruxelles. Qui traite du libre, comme on est à l'Université libre de Bruxelles, on se dit, bah voilà, on fait une émission sur le logiciel libre, ça ira de pair. Voilà, mais donc on entend Richard Stallman dire effectivement, pour lui, fondamentalement, ce qu'est du logiciel libre, hein, où c'est le programme qui contrôle l'utilisateuris, ou c'est l'utilisateuris qui contrôle le programme. Okay. Voilà pour la petite histoire.
Mais du coup, ce sera super intéressant d'y revenir. J'avais envie de parler avec François des Amis de la Terre de la conversation que nous avons eue un peu plus tôt sur le lien entre justement une asso qui travaille plutôt sur l'alimentation et le numérique. Et voilà, je te donne la parole si ça te convient.
Voilà, oui, le groupe qui s'appelle Informatique, c'est un groupe thématique des Amis de la Terre. Il a été constitué il y a quelques années. Et depuis lors, c'est vrai que les Amis de la Terre se sont beaucoup plus recentrés sur ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la décroissance et la simplicité volontaire. Mais il y avait quand même beaucoup d'activités, beaucoup d'animations dans le groupe informatique. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que le numérique, il marque son empreinte un peu partout. Et que dans tous les domaines, on devrait s'intéresser à la façon dont le numérique est susceptible d'interférer finalement. Donc voilà, le lien entre les Amis de la Terre et l'informatique, le numérique, est assez indirect. Mais je pense qu'on peut en dire autant de tous les secteurs d'activité. Il faut vraiment se poser des questions sur les outils qu'on utilise. Parce que bien souvent, on utilise des outils grand public, que tout le monde connaît, etc. Et si on gratte, eh ben là, on se rend compte qu'on utilise des outils qui sont en fait opérés par des gens qui sont en cheville avec les gens dont on décrit les actions pour l'instant.
Donc voilà, comme Fredix le disait, on est tous concernés par les carottes, on est tous concernés par le numérique aussi. Voilà, du coup, je voulais revenir sur... ta phrase, Fredux, sur le fait d'être contrôlé ou de vouloir contrôler, c'est ça? Donc, est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus?
Oui, bah, donc le mot informatique contient dans son étymologie le traitement de l'information. Et donc tout est information. Ça dépend pour qui et pourquoi. Mais donc c'est vrai que là, pour le moment, on est dans une époque très, très capitaliste. Donc le commerce et le lucre jouent beaucoup. Donc on peut imaginer que cette collecte d'informations ne servirait qu'à des fins publicitaires, hein, de trouver le meilleur profil de chacun, chacune avec son ordi de poche ou de bureau pour pouvoir lui envoyer la pub magistrale qui va le ou la faire craquer et acheter quelque chose. Mais les informations collectées maintenant, ce n'est plus uniquement nom, prénom, adresse, date de naissance, etc. Il y a plus de 300 items qui permettent de cataloguer une personne et de la faire rentrer dans une espèce de nuage et de probabilité que un acte commercial, un acte d'achat va pouvoir se faire. Mais le problème, c'est que ça va aussi avec des problèmes de recherche. C'est que quand on est aux États-Unis et qu'on a un ministre qui est un président qui a décrété que l'avortement devenait interdit, ben toute personne qui fait des recherches dans Google, pour ne pas le citer, eh bien se fait repérer. Et donc ça va à des fins maintenant un peu plus politiques. Donc c'est un petit peu ce revirement de sociétés qui ont besoin d'abord de beaucoup de données sur les gens parce que elles ont des grosses machines, des gros serveurs qui traitent du big data. Plus il y a d'informations, plus leurs machines se sentent bien. On ne sait pas encore à quoi ça va servir exactement la fin, mais on va faire de la pêche au chalut d'informations personnelles. Et puis, le fait de pouvoir se rapprocher tout doucement, c'est une de mes angoisses existentielles, mais du modèle chinois, où effectivement, chacun, chacune là-bas, dans certaines villes où c'est ultra bien technicisé, eh bien, se fait contrôler en permanence sur le fait de traverser la rue quand c'est rouge ou pas rouge, et donc d'avoir un crédit social qui se mettrait en place. Il n'y a aucun gouvernement, à ma connaissance, de gouvernements occidentaux ou qui ont dit au gouvernement chinois « mais arrêtez votre truc, c'est antidémocratique ». Et donc j'ai peur que un modèle chinois serve à un moment donné de laboratoire d'expérience pour quelque chose qui serait prêt à mettre en place en 2-3 clics et en 2-3 caméras sur la Terre entière. On aura Technopolis qui viendra en parler demain, je pense, à propos de la surveillance de l'autodéfense numérique. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc oui, il y a moyen effectivement de ne pas laisser trop de traces, de ne pas donner trop d'informations à partir du moment où on prend le pli de ne plus alimenter le complexe militaro-numérico-industriel des GAFAM. Et bon, voilà, à l'image d'un petit barbecue, un feu de camp fin de soirée, hein, si vous voulez que le feu s'éteigne, vous arrêtez de mettre du bois dessus.
Ok, et donc, est-ce qu'il y a des moteurs de recherche, par exemple, plus sécures, où on ne risque pas d'être contrôlé, ou quelles sont les alternatives pour les gens qui se posent la question, écoutent.
Voilà, donc vous pouvez déjà venir au stand à Belly, Village des Possibles, vous aurez une belle liste. Mais
bienvenue.
Il y a effectivement Startpage, il y a DuckDuckGo qui sont des moteurs de recherche qui fonctionnent bien, il y a Search aussi. Il disait quoi encore notre super panneau sur les moteurs de recherche?
Il y a PreSearch aussi.
Oui, PreSearch.
En fait, les autres, Search, DuckDuckGo et Startpage sont des métamoteurs. Donc en fait, l'information initiale, elle vient quand même des gros moteurs de recherche. Mais eux font un résumé de tout ça pour nous le présenter. Et on n'est pas pisté. Donc d'un côté, les gros moteurs de recherche ne savent pas qui pose la question. Et nous, on reçoit un truc assez généraliste, plus ouvert en fait. Toutes les réponses sont possibles. C'est pas guidé parce qu'on n'est pas profilé. Par contre, PreSearch, dont je parle là tout de suite, ils ont leur propre réseau d'ordinateurs pour indexer le web. Et là, en fait, ils sont à la source. Eux constituent leur propre index, ce qui n'est pas le cas des trois autres.
Mais on parle ici aussi des moteurs de recherche, mais il y a plein d'autres logiciels, enfin en tout cas très intéressants. Bah, il faut savoir aussi, bah, je partage un peu mon expérience, que j'ai poussé la porte d'un Linux install party il y a quasi 2 semaines maintenant. Et donc on a parlé évidemment installation Linux, utilisation Linux, mais notamment aussi de plusieurs logiciels, notamment pour partager des gros volumes de données. Plutôt que de passer, je vais pas citer de nom ici, mais plutôt que passer par des transferts de fichiers X et Y, il y a des solutions aussi dans le libre et complètement sécurisées, complètement anonymes. Il y a moyen de faire des vidéoconférences aussi, mais d'ailleurs j'en ai passé pas plus tard que la semaine passée, où on envoie un lien, pouf, tout le monde se connecte de manière sécurisée et totalement anonyme de nouveau. Donc oui, il y a tout un panel de choses au quotidien qu'on peut utiliser.
Et donc pour effectivement vite mettre le doigt dessus, il y a un site internet qui s'appelle alternativetout.com, j'ai plus.
Net,
voilà. Et donc quand vous avez un doute sur un programme que vous utilisez, vous croyez que c'est peut-être pas le meilleur, ben voilà, cherchez une alternative. Ou alors dans votre moteur de recherche favori, tapez juste alternative tout. What do you want, what else? Et voilà, vous pouvez trouver ça.
Et là, quelque part, on peut faire le lien entre le logiciel libre dont on parlait tout à l'heure et ces plateformes qui sont respectueuses de nos droits. C'est que, comme le, par exemple, on prend le cas du logiciel de visioconférence, c'est un logiciel libre, mais en fait, tout le monde peut techniquement, alors il faut être un petit peu doué pour ça, mais techniquement, tout le monde peut l'installer sur un ordinateur chez soi et lancer la visioconférence à partir de chez soi. À la limite, là, on est obligé de faire confiance à personne du tout. Et donc ça, c'est la force des logiciels libres. C'est le fait de pouvoir avoir sa plateforme si on a envie et les compétences, évidemment. Bon, là, ça demande parfois un peu d'expérience.
Ou un peu d'aide.
Ouais. Vous savez pourquoi, comment le logiciel libre est libre? On en parle. Mais, hein,
ben, explique-nous, ça m'intéresse.
Mais donc, d'après le grand monsieur qu'on a entendu dans le générique de source, donc Richard Stallman a décrété qu'à un moment donné, on devait pouvoir avoir accès au code source. Il y a des langages de programmation qui ont été inventés par les humains pour domestiquer les électrons. Et au final, ça va donner juste une suite de 0 et de 1 que seul le processeur des ordinateurs va pouvoir capter. Plus une bouffe que des 0 et des 1. Mais quand vous recevez une page, 20 pages entières remplies de 0 et de 1, pour l'humain, c'est totalement inintelligible. Et donc, avoir accès au code source permet donc de remettre une petite virgule, un 2 points, etc. Mais surtout, c'est le contrat de licence d'utilisateuriste final qui va importer beaucoup là-dedans. Et donc, le logiciel libre se veut justement ouvert et donne cette liberté d'exécuter un programme comme vous voulez, de le démonter comme vous voulez parce que vous avez accès au code source, de le remonter comme vous voulez parce que vous avez justement accès au code source et vous connaissez un des langages de programmation, et après, vous le repartagez. En fait, il y a 4 libertés, non, il y a 3 libertés et une obligation, c'est de repartager le programme. Voilà. Pour qu'effectivement, le plus de personnes puissent en profiter et en jouir et faire partie d'une communauté de communistes plutôt que de capitalistes. Voilà, donc logiciel libre, ça vient de là. C'est cette licence GPL que M. Stallman avait mis en route dans les années 80.
Voilà. Et derrière ces questions qui sont plus ou moins techniques, là, on rejoint vraiment les préoccupations des Amis de la Terre, à savoir qu'un logiciel libre est un bien commun, qu'il appartient à tout le monde et à personne. Et ça, c'est l'idée du partage et de la solidarité, en fait.
Merci beaucoup.
Mais ça rejoint une phrase que Fredux dit souvent, enfin je me permets, on oublie parfois de mettre l'humain avant le matériel. Mmh. Et je trouve que dans ce genre de situation, cette phrase a tout son sens.
Ouais, ouais.
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti de ma toute petite expérience, finalement, il y a quelques semaines.
Mmh. François, est-ce que tu souhaites nous proposer une pause musicale?
Ah, nous pouvons, oui, tout à fait. Ok, tu me prends un peu dépourvu, mais allons-y. Moi, je vous propose, on va rester dans le thème d'aujourd'hui, de vendredi, du reggae français, ça vous dit?
Oui.
Voilà. Donc ce soir, côté jardin, à 22h45, nous retrouvons Dub Inc. Je vous propose de faire notre pause avec eux, de danser un petit peu, et nous revenons tout de suite après.
Lorsqu'on s'installe et qu'on monte les décibels, et même si c'est la millième fois, monte sur la scène et enchaîne. À chaque fois qu'on répond à l'appel, voilà. On le fait comme la dernière, car au final c'est tout ce qu'on pose. Again, again, monte les décibels, car c'est grâce à vous que l'on remonte sur la scène et enchaîne. À chaque fois qu'on répond à l'appel, voilà. On le fait comme la dernière, car au final c'est tout ce qu'on pose. Et souviens-toi des premières fois, on ne sait plus lâcher. Tant de soutien dès le premier.
Radio Esperanza.
Responsabilité, le monde appelle me fait paniquer, trouble la personnalité. On dit qu'il faudrait méditer, mais tout se passe dans ma tête. Faut que je la sorte de l'eau, se laisser couler, ça sonne beaucoup mieux. Je me sens toujours à la traîne, jamais à la page. Toujours en retard sur celle qui devrait être moi. Toujours incomplète, jamais à ma place. Jamais assez verte, pas que j'écrase sous mes pas. C'est pas la peine de me dire la vérité. Tu sais, j'ai toujours évité de regarder en arrière. Pourquoi m'ennuyer mes blesses, y'a pas quelqu'un pour le faire. Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Tout ce que je veux c'est qu'on m'aime moi. Tout ce que je veux c'est qu'on m'aime moi. Tout ce que je veux c'est qu'on m'aime moi. Tout ce que je veux c'est qu'on m'aime moi.
J'assigne une personnalité pour chaque personne que je croise. Si tu penses tu m'apprécies, c'est que tu me regardes pas. Tu te regardes toi, c'est pas plus mal. Je me sens moi-même seulement quand tu peux.
Je fais des centaines de pas dans ma tête. Je fais semblant que je m'évade. La meilleure version de moi, je la connais pas. Ça m'apaise de porter un masque. C'est pas la peine de me dire la vérité. T'sais, j'ai toujours évité de regarder en arrière, me confronter à moi-même. Pourquoi vendre mes blesses? Y'a pas quelqu'un pour le faire. Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi. Ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi. Ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi. Parfois, ça m'arrive de pas dormir de la nuit. Je retarde les jours jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Je peux pas mettre fin à ma vie. Alors j'aimerais prendre une pause.
C'est pas la peine de me dire la vérité. Tu sais, j'ai toujours évité de regarder en arrière, me confronter à moi-même. Pourquoi bander mes plaies s'il y a pas quelqu'un pour le faire? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi.
Ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi.
Tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi.
Ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi.
Tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi.
Ce que je veux, c'est qu'on m'aime moi.
Tout ce que je veux.
Radio Esperanza.
C'est dans ma tête pendant des semaines à oser les mauvais arbres. Je cultive mon sommeil, mes envies me perdent. C'est la haine qui fait tenir mes vertèbres. Dis-moi ce que j'ai dans les veines. Comment j'ai fait pour les faire taire? Où est-ce que j'en suis? Je me sens pas dans mes baskets. Je bois avec mes mains, j'ai mes tasses pleines. Quand j'ai envie de mourir, je me défonce à mort dans mon piteux appart couleur pastel. Couleur pastel.
Radio Esperanza.
Voilà, donc merci pour cette pause musicale. Nous venons d'écouter un duo franco-belge, Candeur Cyclone, qui se produit aujourd'hui à 20h15 sur la scène rugissante. Voilà, il nous reste quelques minutes d'émission. Donc, nous souhaitions aborder le lien avec, encore plus en profondeur, le lien avec la thématique d'Esperanza, qui est la montée du fascisme et l'extrême droite. Et donc, voilà, si je pouviez nous expliquer les liens avec les logiciels utilisés en général et les alternatives, et les avantages et inconvénients de chacun. Donc, je vois Anaïs qui souhaite s'exprimer.
Oui.
Merci.
Donc, on a beaucoup de soucis avec les plateformes donc des GAFAM qui sont détenues entre autres. Hein, mais je vais parler de Mark Zuckerberg et maintenant son Meta, qui possède donc Instagram et Facebook entre autres. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a plusieurs fois fait l'aveu que c'était pas la réalité ou la vérité qui était promue sur cette plateforme, c'était ce qui fait du buzz. Et ce qui fait du buzz, bah, ce sont les fake news. Et en fait, Facebook promeut toutes ces fake news et ça fait leurs affaires. Donc, comme disait Fred Hux tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un but mercantile. Et l'extrême droite se nourrit de ça. Donc, les réseaux sociaux numériques sont abreuvés en fait de choses qui sont négatives et qui font pas du bien justement à tout à chacun. Enfin, moi, je remarque en tout cas dans mes amis et mes connaissances que toutes les personnes qui sont sur les réseaux numériques me font des retours comme quoi le monde va très mal, c'est la mouise, on va jamais s'en sortir. Alors que les personnes qui sont justement déconnectées et beaucoup plus reliées à leur environnement direct ont beaucoup plus de joie, de possibilités et d'exemples qui sont par exemple les logiciels libres et qui font du bien en fait et qui créent justement des alternatives, du lien, de l'espérance et de l'action. Et donc ça, c'est une chose qui peut justement aider les auditeuristes, hein, c'est prendre conscience ou faire une semaine justement de se déconnecter ou un petit peu plus et de se rendre compte dans sa vie, tiens, mais qu'est-ce qui fonctionne?
Déjà une journée, oui. Même une heure.
Oui, oui, il y en a
une
qui ont dit.
Hein. Tu vas fort, toi, hein, tout de suite, hein, bam.
Oui, oui, c'est la bien. Grande diète, le grand jeûne. Non, mais déjà se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de possibilités qui existent autour de nous et que le monde va... Enfin, c'est pas si noir que ça, parce qu'en fait, ceux qui donnent cette couleur-là, ce sont surtout les dirigeants des grosses boîtes, mais ils sont une infime minorité. Hein. Comme on dit toujours, c'est le 1% contre 99%. Donc, moi, je dirais que... C'est important en fait de militer, mais d'être dans le concret, donc plus dans le réel, parce que sur les plateformes, en fait, les algorithmes créent en fait des bulles, et au final, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact, parce que c'est toujours les personnes qui sont persuadées ou qui sont déjà convaincues que vous arrivez à toucher et qui rebondissent sur sur vos commentaires ou sur vos publications.
Mais oui, si déjà on pouvait avoir le code source de certains algorithmes, c'est pas mal. Oui. Au nom de la transparence, au nom de la démocratie, au nom du respect des humains, voilà. Donc le fait de laisser ça dans l'obfuscation, hein, dans le fait de laisser ça volontairement en secret, un petit peu comme les fameux extraits végétaux de la recette du Coca-Cola, mais on sait jamais lesquels. Si jamais il y en avait un qui était tout à fait nocif, toxique pour moi. Donc oui, c'est effectivement des stratégies d'obscurantisme totalement inacceptable en 2025.
Et le problème avec ces algorithmes, justement, c'est que c'est de l'intelligence artificielle et donc l'algorithme tout seul n'a plus de sens. En fait, ce qui fait que l'algorithme décide noir ou blanc, c'est les données de départ dont il est abreuvé. Et en fait, on a remarqué que sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, elle a remarqué toute seule que ce qui fait que les gens restent sur la plateforme, interagissent avec la plateforme et génèrent des rentrées financières publicitaires, c'est des contenus qui sont souvent violents, clivants, etc. Mmh. Et donc, ça fait le jeu sans qu'il y ait nécessairement un but politique là derrière, il y a un but mercantile, ça fait le jeu de tout ce qui est clivant, violent et qui polarise la société.
Mmh. Oui, toute l'extrême droite.
Oui, puis c'est de la domination, de la manipulation. Pour ça, sur Arte, il y a encore la série de capsules dopamine qui explique comment chacun des programmes de ces grosses boîtes cotées en bourse fonctionne avec nos biais neuronaux, nos biais cognitifs, notre psyché humaine, et à quel point c'est volontairement codé avec des psychologues, des sociologues, et pas uniquement des geeks et des informaticiennes, pour que les gens soient justement accros, pour que justement il y ait des sous-sous qui rentrent dans leur poche une fois de plus. Mais on est donc dans le fait que ces gens connaissent mieux le fonctionnement de notre psychisme que nous-mêmes. Et c'est le « connais-toi toi-même » de Socrate d'il y a 4000 ans, ça part à la poubelle, comme les 200 ou les 350 millions d'ordinateurs, le 14 octobre prochain. Donc voilà, oui, je crois qu'il faut informer les gens le plus possible et ne pas leur faire peur, mais leur donner envie quand même de sortir de la grotte dans laquelle ces GAFAM veulent absolument nous laisser enfoncer au fond et confondre nos émotions pour des opinions.
Et comme on en discutait également aussi, les alternatives permettent plus d'autonomie et de communauté, et de solidarité. Et donc, est-ce que on pourrait peut-être terminer l'interview par une explication à ce sujet-là, si ça vous dit ?
Les bons réseaux sociaux, les gentils réseaux sociaux, des mastodons, des diasporas, des friendicas, des endroits où en fait c'est vous l'algorithme. Bien cette formule.
Mais oui, et bien souvent, on fait face aussi à des gens qui répondent de manière très générale, on va dire mes gamins en premier, mais tiens, de toute façon, moi, je n'ai rien à cacher. Ils peuvent venir voir ce qu'ils veulent, je peux donner ce que je veux. Et donc, je rebondis un peu sur ce que tu disais par rapport à la... Est-ce que je peux appeler la dangerosité du monde qui peut-être est devant nous ? Et justement, cette accumulation de données personnelles qu'on a de plus en plus accumulées via... certaines applications dont on parlait tout à l'heure ou via certains réseaux sociaux.
Oui.
La difficulté, c'est que Internet n'oublie rien du tout. Et donc, si on n'a rien à cacher aujourd'hui ou si on pense qu'on n'a rien à cacher, c'est une expression que je n'aime pas du tout, en fait. On n'est pas certain du tout qu'on n'aura pas envie que ça soit resté caché dans 10 ans. Parce qu'on ne sait pas quel sera le monde dans 10 ans et que ce qu'on fait aujourd'hui qui paraît tout à fait anodin pourrait être considéré ou exploité d'une façon très embêtante dans 10 ans. Et alors, à propos de cette phrase, j'ai rien à me reprocher, donc j'ai rien à cacher, je ne viens pas sur le « j'ai rien à me reprocher » parce qu'en fait, apparemment, c'est pas vrai pour beaucoup de monde, mais ça, bon, voilà, chacun juge. Par contre, je n'ai rien à cacher. Ça, c'est presque jamais vrai, parce que si je vous donne mon numéro de téléphone en demandant de le garder pour vous, vous vous retrouvez avec quelque chose à protéger. Et c'est la même chose que quelque chose à cacher. Donc, en fait, tout le monde a quelque chose à cacher.
Oui. Cette phrase, c'est plutôt une phrase, justement, de dominant qui fait de la propagande pour mettre cette idée dans la tête des gens. Et du coup, ben, on mord à l'hameçon et on se fait avoir. Et comme dit François, si c'est pas maintenant, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, quand on aura un changement de régime et justement qui se fascise de plus en plus. Et là, toutes les personnes qui sont pour l'avortement ou qui militent pour l'écologie, ben, on voit comment sont traités les militants écologistes maintenant. Ils sont traités d'éco-terroristes. Mais ça, c'est aussi un vocable de dominant qui décide en fait qui doit être puni et qui ne doit pas l'être. Et ouais, clairement. Cette phrase, en fait, ça nous met dans une position de je me soumets à qui décide pour moi qu'est-ce que j'ai à cacher ou qu'est-ce que je n'ai pas à cacher.
C'est ça, mais d'autant plus qu'historiquement parlant, c'est Goebbels ou Göring qui auraient mis ça en route dans les années 40-45, un petit moment fort agréable en Europe, où on n'osait pas encore ouvertement faire un stand avec antifasciste. Et donc, c'est un peu embêtant que des antifas utilisent des outils profondément fascistes au départ, où on dit justement, j'ai rien à cacher, alors je peux tout montrer. Ben non, justement, Banzai, l'intimité physique, là, on est à Floreffe, on n'est pas au Cap d'Agde. Donc, tout le monde est superbement habillé ici, sinon on serait complètement à poil, comme sur d'autres plages du sud de la France. Voilà, l'intimité numérique est au même titre que l'intimité anatomique. Sauf si, évidemment, t'as des fils qui sont plutôt exhibis et qui, donc, effectivement, ont envie de tout montrer sur leur tête. Pas.
Ok.
Ça va ? Oui.
Ça va, oui.
Je suis pas trop trash dans mes analogies.
On ne censure pas ici, heureusement, pas encore.
Ça dépend qui, peut-être. Mais merci à tous en tout cas pour votre présence lors de cette première émission de Radio Esperanza édition 2025. On vous retrouve à vos stands et puis sur les scènes pour faire la fête.
Oui. Merci pour l'invitation.
Voilà. Donc je dirais deux petites choses. Donc dopamine sur arte.tv.
Ouais.
Et alors un autre site internet qui représente bien le mode de fonctionnement aujourd'hui de la collecte massive de données, c'est social cooling. Socialcooling.com.
Pour continuer dans les sources et les références, on avait parlé tout à l'heure du système de surveillance en Chine. Un documentaire a été fait aussi par Arte, il me semble, qui s'appelle « Ma femme a du crédit ».
Oui.
Et qui en parle et qui l'illustre parfaitement bien. Oui. C'est quelque chose qu'on utilise, nous, dans la haute école, dans laquelle je suis, pour informer des futurs enseignants. Donc, une source supplémentaire pour vous.
Voilà.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Merci.
Festival.
C'est Esperanza, une belle radio.
Bien, merci à vous aussi. Et on se quitte en musique. Parce qu'il y a un coup du sort, je remarque que notre émission se termine plus ou moins à 18h. Et il faut savoir qu'une autre partie de l'équipe de Radio Esperanza est littéralement en train d'interviewer un artiste qui passe tout à l'heure sur scène. Donc j'ai nommé Camion Bip Bip. Et donc je propose, voilà, qu'on se rejoigne, qu'on termine avec Camion Bip Bip tout de suite. En tout cas, bonne écoute. On se retrouve sur radioesperanza.be et bonne fin de journée à tous.
La seule chose qui m'habite, c'est de te voir payer. La seule chose qui m'excite, c'est de te voir pleurer.
Radio Esperanza.